Un très agréable jour de sabbat, frères et sœurs. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Rien ne pourrait mieux remettre notre existence en perspective que de nous retrouver face à face avec l'éventualité de la fin de notre vie. Pour certains d'entre nous, qui avons déjà quelques cheveux blancs, nous nous souvenons du temps passé. Quand nous étions plus jeunes, nous avions alors l'impression que la vie ne finirait jamais, même si nous savions que c'est ce qui, un jour, adviendrait. Et puis, au fil du temps, nous croisons un événement. Quelque chose se produit, une péripétie qui ébranle notre insouciance, notre certitude en une longue vie. Que s'est-il passé? Peut-être venons-nous de recevoir un diagnostic grave, ou venons-nous de perdre un être cher. La vie, soudain, s'en trouve bouleversée. Et cela affecte jusqu'à notre façon de penser. Les émotions se bousculent en nous, d'ailleurs, à l'annonce de la mauvaise nouvelle. Et parmi ces pensées, même, il y en a une peut-être qui se détache tout particulièrement. Dans de telles circonstances, les gens parfois se demandent à quoi leur vie a-t-elle bien pu servir. Et la question se pose en fait à chacun d'entre nous. Nos vies sont-elles remplies de sens ? À cela, chacun a déjà, bien entendu, sa propre réponse. Vers la fin de sa vie, le roi Salomon, parmi tous ses écrits, a rédigé un recueil tout particulier, le livre de l'Ecclésiaste. Il est parvenu jusqu'à nous en ce 21e siècle, puisqu'il fait partie, nous le savons, du canon biblique, c'est-à-dire des livres considérés par les biblistes comme étant inspirés par Dieu, au milieu de toute la multitude des différents écrits. Et Salomon y décrivait le fruit de sa méditation, le fruit de sa réflexion profonde sur ce qu'il avait appris, sur ce qu'il avait accompli tout au long de sa vie. Ainsi, au chapitre 2, il énumère ce qu'il a fait pour son épanouissement personnel. Et il en avait les moyens, puisqu'il était à la tête du royaume d'Israël en un temps où Dieu avait promis qu'il en ferait un modèle incomparable, en termes de gloire, de richesse, de sagesse, bref, un précurseur inégalé du royaume de Christ après son second avènement encore à venir. Et ce modèle annonciateur du merveilleux royaume de Dieu à venir sur cette terre surpassait à l'époque en puissance, en sagesse, tout ce qui pouvait exister. La Bible, la parole de vérité, nous enseigne avec autorité que le règne de près de 40 ans du roi Salomon a dépassé de loin, en puissance, en gloire, en renommée, en sagesse gouvernementale, toutes les civilisations existantes au moment de son règne. Et dans le premier livre des rois, au chapitre 3, au verset 12, c'est l'Éternel Dieu qui parle, et il dit ceci, ces paroles enregistrées par le prophète, il dit à Salomon, « Voici, j'agirai selon ta parole. » Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura personne avant toi, il n'y aura eu personne avant toi, et l'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses, de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Tout était parfait. La table, les mets, les vins, les vaisselles, les ustensiles d'or pur, les divertissements les plus acclamés, les œuvres d'art les plus raffinées, de grandes demeures, de belles maisons, des jardins majestueux, des vergers, donnant les meilleurs produits de la terre et une foule de domestiques. Ajoutez à tout cela une armée, une marine puissante, avec des chars et des chevaux innombrables qui ont assuré pendant le règne de Salomon une paix incomparable, il fallait que tout soit digne du roi des rois, littéralement. Salomon avait toute la richesse qu'il pouvait désirer, et bien plus que ce qu'il pouvait même dépenser. Sa marine marchande était réputée pour se rendre dans des contrées lointaines, revenir chargé d'argent, d'or, de produits de luxe. Il employait un personnel nombreux pour prendre soin de ses vastes propriétés. Bien sûr, sa vie n'aurait pas été complète sans une épouse magnifique, attitrée, mais comme il en avait les moyens, il s'est autorisé lui-même à en prendre 700. Et comme si cela ne suffisait pas, il y ajouta même 300 autres concubines, ce qui lui donnait un total de 1000 femmes dévouées à lui tout seul. Salomon, le roi le plus glorieux de son époque, le mâle alpha par excellence, le James Bond de son temps. Mais alors, avec tout cela, la vie de Salomon semblerait effectivement avoir été l'existence la plus complète jamais vue sous le soleil, bien au-dessus de celle de n'importe quel homme ayant jamais existé. Et bien sûr, Dieu ne nous dit pas que c'est une mauvaise chose que de désirer des choses physiques, des choses matérielles. Nous avons tous le désir, par exemple, d'améliorer le quotidien physique de nos existences. La croissance physique fait partie de la vie, ça fait partie de l'excitation, de l'enthousiasme que nous pouvons avoir, chacun d'entre nous. En revanche, la loi de Dieu et le 10e commandement nous disent clairement que convoiter quoi que ce soit, c'est un péché. Autrement dit, désirer des choses qui ne nous appartiennent pas, cela mène à la mort. Alors, est-ce que le fait d'avoir toutes ces choses donne, dans une bonne perspective, d'avoir des choses physiques, d'être riche en quelque sorte, ou d'avoir des choses suffisamment pour combler nos besoins physiques, est-ce que même cela nous donne-t-il un sens à la vie? Autre question, si nous avions été à la place de Salomon avec tout ce qu'il avait, aurions-nous fait mieux que lui? Dans Matthieu chapitre 6, verset 25, Jésus résume bien le tout. Il nous encourage à bien mettre toutes les options sur la table, mais surtout à bien remettre les priorités dans le bon ordre. Et il nous dit ceci, verset 25, Matthieu chapitre 6, verset 25, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie, dit-il, n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. » C'est une très belle image, n'est-ce pas? Mais pourquoi Jésus nous dit-il, Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux, comme l'un de ses lys? La création de Dieu et de surcroît tout ce que Dieu prépare pour l'humanité dans le royaume dépasse de loin toute la gloire que l'homme peut imaginer. Et c'est cela, ce que Dieu prépare et qu'il garde en réserve pour l'humanité, le moment venu. Et verset 30, Jésus ajoute, « Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, brûlera, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison ?» gens de peu de foi. Ne vous inquiétez donc point, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent, autrement dit, les non-juifs, les non-israélites. Autrement dit, nos désirs charnels nous poussent à aimer les choses matérielles. Et nous étions, effectivement, même étant aujourd'hui chrétiens, nous étions pleinement ainsi avant que Dieu nous appelle à sa vérité, nous appelle à le servir en vue du royaume de Dieu. Nous recherchons maintenant autre chose, bien que nous ayons encore besoin de ce que Dieu nous donne sur le plan physique. Et il ajoute au verset 32, « Votre Père céleste sait que vous en avez besoin, mais, dit-il, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » À chaque jour suffit sa peine. En général, l'être humain, consciemment ou inconsciemment, s'efforce en permanence de trouver un but, un sens à sa vie. C'est naturel, c'est normal. Une substance à travers tout ce que l'être humain peut accomplir ou peut acquérir. Remarquez la perspective de Salomon. alors avancé en âge, sur tout ce qu'il avait fait dans sa vie, sur tout ce qu'il avait accompli et accumulé. Nous trouvons son commentaire, encore une fois, dans le livre de l'Ecclésiaste, Ecclésiaste chapitre 2, donc au tout début du livre. Ecclésiaste chapitre 2 et au verset 10 et 11. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privé. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'en est revenue. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits, et la peine que j'avais prise à les exécuter, et voici, c'est la conclusion de sa réflexion, tout est vanité, tout est poursuite du vent, et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Ici, nous voyons que cet homme, Salomon, qui avait tout reçu, la gloire, la richesse, la sagesse, l'intelligence, la renommée, des épouses sans nombre et d'une beauté parfaite, on peut en être convaincu et l'imaginer sans difficulté, la toute première place aussi parmi toutes les têtes couronnées de son temps, les célébrités, eh bien même avec tout cela, il comprenait que ce n'était que du vent, que ce n'était que de la vanité, du vide. Alors, qu'est-ce que la vanité ? Quelle en est la définition ? Selon le dictionnaire de l'Académie française, la vanité, c'est ce qui est vain, ce qui est inutile, ce qui est sans consistance, sans fondement solide, ce qui n'a pas de valeur durable. C'est cela, la vanité. Et puis, dans un second sens qui nous est donné par le même dictionnaire, c'est un amour-propre immodéré, une sorte de suffisance. C'est se comparer aux autres en se considérant soi-même comme irréprochable. C'est le contraire de l'humilité, en somme. Ça, c'est la vanité. Quand nous voulons que les autres reconnaissent absolument notre talent, c'est alors que nous devenons vaniteux. Nous en sommes réduits à chercher à plaire, et peut-être même à exhiber exagérément des qualités quelque peu usurpées. C'est se consacrer à notre paraître plutôt qu'à notre être. Pour vivre dans une sorte d'illusion, finalement dans le mensonge. Nous essayons de trouver dans le regard des autres, dans le regard d'autrui, une considération faussée. Typiquement, c'est la considération accordée, par exemple, au nombre de pouces bleus que l'on pourrait récolter sur certains réseaux sociaux, suite à un bon article, bien senti, voilà qui mérite de bons pouces bleus. Mais qu'est-ce qui est le plus important quand on publie de tels articles ? De publier une photo qui va frapper l'imagination, ou la surprise, dans le but de récolter toutes ces bonnes réactions, ou bien de publier un article ou un lien qui va encourager les autres, qui va leur être utile. Il y a déjà une différence. C'est parfois difficile aussi d'accepter la maigreur des réactions. Retour à la réalité, quand nous pensons avoir produit un contenu que nous estimions brillant, qui en fait, eh bien, n'a pas beaucoup de résultats. En fait, cela ne devrait pas nous inquiéter quand nous publions quelque chose d'utile. Nous savons que c'est utile, nous savons que des gens vont être utiles. C'est pas tellement vraiment intéressant de savoir le nombre de pouces bleus que nous allons récolter, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes. Peut-être que quelqu'un, effectivement, va en tirer profit. Un sourire, un moment de tendresse, une bonne nouvelle, une note utile. Sans prendre même le temps d'appuyer sur le pouce bleu. Il a oublié. Non, la vanité recherche l'approbation des autres en essayant de les séduire. Et puis, l'orgueil, lui, ne se soucie pas vraiment des autres. Il s'impose, toujours avec un esprit de concurrence. Il n'a pas vraiment souci de plaire. Il sait que déjà, de toute façon, tout est gagné, croit-il. Mais que nous soyons hommes ou femmes, nous avons tous tendance à parfois à tomber soit dans le piège de l'orgueil, soit dans le piège de la vanité. Nous sommes humains. Vous savez, pour beaucoup de gens, Dieu n'existerait pas. Ou s'il existe, il se soucierait très peu, disent-ils, d'une population humaine qui, selon eux, n'aurait plus qu'à se débrouiller elle-même s'occuper elle-même de ses propres affaires. Pour la grande majorité des êtres humains sur Terre, Dieu n'aurait pas de plan particulier, ni pour eux, ni pour le reste de l'humanité. Eh bien, en fait, rien n'est plus éloigné de la vérité. Rien n'est plus éloigné de la vérité. Dieu développe, depuis la fondation du monde, un plan formidable, précis, en 7 étapes qu'il détaille dans la parole de Dieu, pour sauver l'humanité d'elle-même, pour établir en son temps, au moment voulu, choisi par Dieu lui-même, le royaume de Dieu sur terre. C'est l'essence même de l'évangile, de la bonne nouvelle du royaume de Dieu, que Jésus-Christ a prêché. Un royaume avec, évidemment, un roi tout-puissant, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Un territoire qui finira par s'étendre à l'ensemble du globe terrestre, jusqu'aux confins du monde, avec un peuple aussi, fait de familles homogènes et coopérant les unes avec les autres. Et bien sûr, tout cela avec une loi. Voilà les caractéristiques et les composants de ce royaume. Cette loi dont je viens de parler, nous en avons la version imprimée disponible de son fondement, de sa fondation. Ce sera la fondation de la loi de Dieu, son fondement depuis des siècles maintenant. Et s'il est vrai que beaucoup doutent en fait de l'existence de Dieu et de son plan d'intervention dans les affaires désastreuses de l'humanité, il n'en ressemble pas moins un grand besoin, conscient ou inconscient. Un grand désir se fait jour en eux. Ça, c'est l'homme, ça, c'est la nature humaine qui nous pousse à nous poser des questions. Il leur manque une relation étroite et une relation significative avec leur Créateur, avec le Père éternel. Nous autres, êtres humains, nous avons été dotés de cet esprit, d'un esprit humain, et en plus du libre arbitre, hein, Dieu ne force personne, il nous invite à comprendre et à contempler sa sagesse. Nous avons la possibilité de faire des choix. Nous pouvons choisir de suivre Dieu ou de l'ignorer, ou de croire qu'il n'existe pas. Mais les athées, les agnostiques, n'ont qu'une envie quand on leur parle de Dieu, en fait. C'est le désir de lui poser des questions, même s'ils sont dans le déni au moment T, hein, plus tard, dans les coulisses, ils commenceront à se gratter la tête et à se poser des questions. Et voilà ce que je voudrais demander à Dieu, en fait. Ils ont des questions, ils ont toutes sortes de questions. Et c'est tout à fait louable, c'est normal, c'est humain. Les êtres humains ont des questions à poser pour le domaine de la vérité qu'ils ne connaissent pas encore. Mais quand on commence à vouloir nier de toutes ses forces l'existence de Dieu, en dépit du bon sens, en dépit du sens naturel, un enfant comprendrait que Dieu existe. Quand on commence à faire ces choses, que se passe-t-il? Eh bien, c'est ce que je disais, les gens continuent d'éprouver ce besoin, un besoin naturel, normal, d'avoir une relation avec le Créateur. Vous savez, quand la Révolution française a éclaté, ça a été la chasse au curé, ça a été la chasse à la religion. Et puis, les révolutionnaires n'ont pas mis longtemps avant de comprendre que si on avait chassé la religion, il fallait la remplacer par quelque chose d'autre. Et c'est ce qui va apparaître au cours de ces années terribles et sanglantes, c'est le culte de l'être suprême. Ça n'a pas duré longtemps, mais en tout cas, c'était une tentative pour essayer de remplacer, en quelque sorte, et de donner un répondant aux gens. Les gens ne comprennent pas encore le plan de Dieu, en particulier ceux qui ne croient pas en l'existence de Dieu. Ils ne comprennent pas ce que Dieu est en train de réaliser à travers sa création de l'humanité et de tout ce qui entoure l'humanité. Ils essayent de combler ce manque de compréhension avec une carrière, c'est bien, je dirais, c'est ce que nous voulons tous faire. Nous voulons avoir une carrière qui nous permette de subvenir aux besoins familiaux. Mais eux se lancent dans cette carrière à corps perdu, corps et âme, c'est tout ce qui leur reste. Ils n'ont pas d'autre plan, ils n'ont pas d'autre espoir. Vous savez, il existe, de nos jours, beaucoup de professionnels qui ont bien réussi, indépendamment de leur croyance ou de leur incroyance. Certains ont d'ailleurs reçu même des distinctions, des récompenses pour leur talent, pour cette réussite. Beaucoup d'entre eux ont atteint le sommet de leur profession. Certains se sont taillés une place dans leur métier, ils se sont fait un nom, comme on dit. Jusqu'au jour où, comme Salomon, ils se sont rendus compte que tout cela n'était que vanité. Tout cela n'était que finalement que de peu d'importance. Et arrivé à un certain âge, même avec un hobby, du sport, un jardin, une bonne retraite, que nous resterait-il dans la vie, sur le plan personnel? Bien sûr, c'est tout à fait louable, je ne dis pas le contraire, c'est tout à fait louable de poursuivre une carrière toute sa vie pour subvenir aux besoins de nos enfants, bien entendu. Mais lorsque la vie atteint son terme, quel avenir reste-t-il à l'homme? Il n'y aurait plus rien pour nous? Tout ne serait plus que vide et néant pour l'éternité? Vraiment? Il n'y aurait plus de projet, plus de substance? Quelque part, c'est assez triste de constater que beaucoup ne réalisent que tard dans la vie ce besoin d'une relation avec Dieu et avec sa parole, et presque peu de temps avant que le sommeil temporaire de la mort ne survienne. Et voici ce que dit le roi Salomon vers la fin de sa vie sur ce qui est important, sur ce qui en vaut de la peine. Et nous le trouvons à la fin du livre de l'Ecclésiaste. Encore une fois, Ecclésiaste chapitre 12, à la fin du livre. Ecclésiaste chapitre 12, donc après le livre des Proverbes. Et allons au verset 13. Ecclésiaste chapitre 12, verset 13. C'est plutôt au verset 15. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu, observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Et il y a du bonheur, il y a une grande paix intérieure à pratiquer toutes ces choses, à savoir que nous avons compris finalement. Nous faisons ce qui fait plaisir à Dieu. Vivre au bon plaisir de Dieu. Et même avec peu de choses. Même avec peu de choses. Voilà ce qui donne du sens à notre vie. Un véritable sens et un véritable but. Je le disais en définition de la vanité dans la poursuite exclusive des biens matériels, il y a un amour-propre immodéré. Il y a une forme de suffisance. Il y a un désir de se comparer aux autres jusqu'à se considérer soi-même comme irréprochable. C'est un risque. Je ne dis pas que nous éprouvons tous immodérément cet attribut. Je dis simplement que pour le chrétien, il y a au moins un bon signal d'alarme qui peut sonner pour chacun d'entre nous et qui nous indique qu'il est temps de nous rapprocher de Dieu. Parce que si nous laissons les choses ainsi, ça ne va pas aller. Il est temps de rechercher Dieu à nouveau. C'est précisément lorsque nous ressentons ce désir incontrôlé d'être au centre de tout, d'être aimé par les autres, d'être presque adulé ou adoré. Et c'est un concentré d'orgueil. C'est un poison spirituel violent. Alors, comment faire? Comment faire pour nous sortir de ce mauvais pas? Eh bien, c'est au moment où nous nous rendons compte qu'il est grand temps, pour nous de jeûner pendant, disons, 24 heures. Sur le plan pratique, nous pouvons faire cette chose. Alors, quand je dis jeûner pendant 24 heures, c'est-à-dire se priver de boissons et de nourriture, entendons-nous bien, il est évidemment fortement recommandé, en cas de doute, de consulter d'abord son médecin. Est-ce que je peux jeûner pendant 24 heures? Est-ce que ma condition physique, mon état actuel, mon bilan de santé me permet de faire cela? Il y a des gens qui, à cause, par exemple, du diabète, que sais-je, je ne suis pas médecin, mais à cause de certaines conditions physiques, ne peuvent pas se permettre de jeûner pendant autant de temps, de se priver complètement de boissons ou de nourriture. Mais si notre condition physique nous le permet, je peux vous garantir que c'est quelque chose dont nous bénéficierons grandement. Nous en bénéficierons parce que si nous ajoutons à cela, à ce temps de jeûne, une étude de la Bible, de la prière, nous allons en ressentir un bénéfice spirituel incroyable. Nous allons nous voir tels que nous sommes vraiment, ou tels que Dieu nous voit vraiment. Et nous allons nous abaisser devant Dieu. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Nous reprenons le sens des réalités. Nous avons mieux conscience de ce que nous sommes réellement. Nous savons que l'humilité, même dans le monde des affaires, c'est quelque chose qui est fondamental. Les créateurs d'entreprises comprennent qu'ils ont besoin d'humilité. Tous ceux qui sont en charge d'une entreprise le savent. Donc nous qui sommes chrétiens aussi, nous avons besoin dans cette grande entreprise de changement de nous-mêmes. Nous avons besoin de l'humilité. Le bénéfice spirituel du jeûne est absolument extraordinaire. Nous retrouvons le sens des proportions. Nous retrouvons notre place réelle dans la vie. Et nous gagnons en humilité. Nous ne sommes plus aussi importants à nos propres yeux. Et notre tendance naturelle va davantage dans le sens, maintenant, d'une meilleure considération des autres. Et c'est là qu'on voit que la construction sociale a besoin de l'humilité. Il faut aller vers les autres plutôt que vers nous-mêmes. Et nous voyons bien aujourd'hui, de nos jours, les résultats de l'orgueil, de la vanité et du manque d'humilité. Il y a des choses beaucoup plus importantes que les choses matérielles. La vie ne se résume pas à des choses matérielles. Par exemple, nos relations interpersonnelles, je venais d'effleurer le sujet, nos familles, le temps que nous passons ensemble, entre amis, entre frères et sœurs, à l'église, ou dans des activités sociales, sportives. Il est aussi important de créer des liens avec ceux qui sont dans le besoin. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le besoin. Et créer des liens avec eux, sortir de notre petite boîte dans laquelle nous sommes renfermés, de notre routine, de notre train-train quotidien, aller voir les autres, aller voir ceux qui sont dans le besoin. Tout cela procure une joie ineffable. Tout cela a beaucoup plus d'importance que les possessions matérielles. Les diplômes encadrés, les coupes, les trophées dans notre bureau, la voiture de sport dans le garage et le manoir en Normandie. Bref, ces choses, non, nous ne les avons pas. Mais bref, il y a des choses que nous pouvons acquérir maintenant par de bonnes orientations, par de bons changements. Avec peu de moyens, nous pouvons, grâce à Dieu, remettre notre vie en ordre, nous remettre sur les rails, même si nous nous sommes trompés. Et nous nous trompons. Nous commettons des erreurs. Et ces erreurs, nous pouvons même nous en venger. Ça paraît curieux comme définition. Mais oui, nous venger des erreurs, des fautes, du péché, des choses qui nous barrent la route. Nous pouvons nous en venger en faisant quoi ? En changeant d'attitude, en pratiquant ce qui est bien. Nous pouvons revenir à Dieu, nous devons revenir à Dieu. C'est le bon sens, c'est le bon choix. Revenir à nos familles aussi. Dieu veut que nous revenions à nos familles, que nous revenions à nos frères et sœurs en Christ, en passant du temps de qualité avec eux. Et puis, à la fin de notre existence, nous dire, voilà, j'ai fait ce que je devais faire. Avoir un sens d'accomplissement véritable, avec de la substance. J'ai trouvé ce qu'il y avait de plus important dans la vie, de construire de bonnes relations avec Dieu et avec mes proches. L'un va avec l'autre. Tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de toute ton intelligence. C'est le premier commandement. Et le second commandement, il n'y a pas de troisième, c'est d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Alors quand je dis il n'y a pas de troisième commandement, c'est une demi-vérité, parce que Christ a résumé la loi avec ces deux commandements. Mais après, on les décline. C'est-à-dire que ces deux commandements parlent en fait de 10 commandements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Depuis, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, jusqu'à, tu ne convoiteras pas rien de ce qui appartient à ton prochain. en passant par « tu observeras le jour du repos, le septième jour de la semaine, et c'est le sabbat ». Le sabbat que Jésus-Christ observait. Donc, avec peu de moyens, nous pouvons, grâce à Dieu, remettre notre vie en ordre. Nous pouvons aussi enrichir nos relations familiales avec de petites attentions, avec des choses qui feront plaisir. Nous pouvons montrer le bon exemple. Nous pouvons même si c'est difficile de renouer d'anciennes relations détruites ou endommagées, nous pouvons tenter de rétablir des relations qui semblaient perdues, perdues à jamais. Toutes ces choses, quel que soit notre degré de succès, nous avons essayé de les faire, nous avons cherché à rétablir les relations. Toutes ces choses sont extrêmement gratifiantes. Et finalement, c'est cela, c'est l'amour. C'est l'amour. Sur le plan personnel, il y a énormément à glaner, il y a énormément à récolter. Laissons Dieu nous parler à travers sa parole. Recherchons la sagesse de Dieu. Et la sagesse selon Dieu, la sagesse d'en haut. Allons dans le livre des Proverbes, au tout début du livre des Proverbes. C'est un excellent livre pour commencer à lire la Bible. La Bible en son milieu. C'est facile à trouver. Proverbes chapitre 3. Il y a beaucoup de conseils de sagesse dans le livre des Proverbes. Allons au verset 15. Ou commençons plutôt au verset 13. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Quand on parle de possession matérielle, l'or et l'argent, même celui de Salomon, c'est quelque chose de factuel, n'est-ce pas? Eh bien, le gain que l'intelligence procure, le gain que la sagesse de Dieu procure, a plus de valeur que l'argent et que l'or. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix, la sagesse. La vie n'est pas vaine, elle est abondante. Il nous faut trouver le vrai sens de la vie. Et peu de gens comprennent dans ce monde que chacun d'entre nous devrait construire d'abord, tout d'abord, une relation privilégiée, quotidienne, sincère avec notre Dieu créateur, avec le créateur des cieux et de la terre, dans cette vie, maintenant. Au-delà de la prière modèle du Notre Père que nous connaissons tous de notre enfance, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, Jésus nous a donné ce modèle dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 6, au verset 9 à 13. Non pas pour que nous le récitions une fois par semaine, encore et encore, par cœur. C'est bien de le connaître par cœur. Je le connais par cœur à cause de ma jeunesse dans l'Église catholique. Mais il nous a été donné comme un modèle. Il nous a été donné comme un plan pour que nous nous en servions pour exprimer notre reconnaissance et pour lui confier nos besoins quotidiens. Avec, bien sûr, des paroles personnalisées, aussi simples soient-elles, comme on parle à un père de nos besoins quotidiens. Dieu veut entendre ces choses de notre bouche, une fois que nous avons fermé la porte de notre chambre. Nous pouvons lui exprimer à cœur ouvert tout ce dont nous avons besoin. Et il nous encourage à le faire. Et nous demandons ces choses, comment ? Eh bien, au nom de Jésus-Christ. C'est très important. Et c'est une promesse que nous avons reçue. Nous avons la promesse qu'en faisant ainsi, qu'en demandant des choses dont nous avons besoin, pour nous ou pour les autres, eh bien, nous demandons au nom de Jésus-Christ, alors nous recevons la promesse que nos prières seront exaucées. Et c'est une promesse merveilleuse. Et nous avons vu ces choses se réaliser dans nos vies. Et donc, cette promesse nous est donnée dans Jean, l'Évangile selon Jean, chapitre 14 et verset 13. Jean 14, 13. Oui, nous avons accès au trône de la grâce, au trône de notre Père éternel. Nous pouvons prier notre Père céleste. Nous pouvons lui parler cœur à cœur. Et lorsque notre frère aîné, Christ, notre Sauveur, a été crucifié, Que s'est-il passé au même moment dans le temple? Rappelez-vous, le rideau de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint, appelé aussi le saint des saints, ce rideau énorme, gigantesque, a été déchiré en deux, de haut en bas. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, bien sûr, ce rideau, on l'appelle souvent le voile. Attention, le voile de séparation n'était pas du tout un voile translucide, fin. Non, ce n'était pas du tout un voile qu'un enfant aurait pu déchirer. Absolument pas. D'après la documentation historique sur le temple de Salomon, le voile mesurait 20 mètres de long et 10 mètres de large, d'abord, pour commencer. Rendez-vous compte, 20 mètres de haut, une fois qu'il était dressé, c'est la hauteur moyenne d'un immeuble de 6 étages. C'est énorme. Il fallait 300 personnes, 300 prêtres, pour venir, ou lévites, pour venir le porter à l'intérieur du temple, côte à côte, tout autour du voile. Et nous ne connaissons pas son poids, nous ne connaissons pas son épaisseur, bien que certaines estimations parlent peut-être d'une tenture épaisse, en fait, de 2 à 3 centimètres. Ça devait être un poids phénoménal. Et d'ailleurs, il est clair que ce voile n'était pas une tenture translucide qui aurait permis aux visiteurs de voir ce qu'il y avait de l'autre côté dans le lieu très saint. Ou plus exactement, quand je dis le visiteur, seuls les prêtres étaient autorisés à rentrer, ou les sacrificateurs étaient autorisés à rentrer dans le lieu saint. Donc la partie qui était devant le lieu très saint. Donc le déchirement du voile de haut en bas qui est arrivé au moment précis où Christ a rendu son esprit à Dieu, c'était donc un miracle. Rien ne pouvait naturellement arriver comme le déchirement de ce voile de haut en bas. Et il montrait clairement, par cette intervention divine, que nous avons maintenant accès au trône de Dieu, tel que Christ l'avait prophétisé, et que seul Christ intercède maintenant pour nous, en tant que notre avocat, en tant que notre souverain sacrificateur, auprès de Dieu. Alors jusqu'ici, nous avons examiné ce qu'est la vanité, par opposition à l'humilité. Il nous reste encore, pour être complet sur ce sujet, à bien faire la différence entre des concepts similaires, mais qui varient subtilement malgré tout. Je veux parler de la fierté et de l'orgueil. Est-ce que c'est la même chose que la vanité? Ou bien existe-t-il entre chacun de ces termes des différences, aussi subtiles soient-ils? Commençons par la fierté. La fierté, et je veux parler, sans parler ici du sens péjoratif de la fierté qui évoquerait une attitude hautaine, méprisante. Non, la fierté peut aussi s'associer à un sentiment familial, un sentiment positif, calme, réjouissant. Et si vous voulez, des notions de mérite, associées à des notions de mérite et de dignité. Pour vous donner un exemple, tout simplement, on est fier de ses enfants. On est fier de ce qu'ils ont pu accomplir, de ce qu'ils sont devenus. Et il n'y a bien entendu rien de mal à ce genre de fierté. Il n'y a rien de mal à tout cela. Donc en résumé, nous comprenons que ces trois notions, fierté, orgueil, vanité, qui sont souvent entremêlées, c'est vrai, dans des sens péjoratifs, mais il y a des différences entre chacune d'entre elles. Alors, pour bien garder les choses à l'esprit, et bien comprendre ces différences essentielles, rappelons-nous simplement que la fierté, c'est une bonne chose dès qu'il s'agit, par exemple, d'être fier de ses enfants, quand ils réussissent à obtenir une bonne réputation, par exemple. Mais que la vanité, c'est ce qui est vide, c'est ce qui est néant, cela n'a rien de positif, rien de louable, c'est ce qui ne sert à rien. Et si nous basons nos vies sur le néant, en nous mentant à nous-mêmes, et en croyant que nous sommes des gens bien, ou que nous ne sommes pas pécheurs, nous nous mentons à nous-mêmes. Et c'est alors que nous nous surestimons et que nous devenons orgueilleux. Et Dieu a clairement l'orgueil en horreur. Nous y reviendrons dans un instant. Personne n'aime vraiment un individu réputé pour son arrogance, pour son orgueil. Et si tout le monde se rend compte qu'il est imbu de sa personne, qu'il se considère toujours comme le meilleur que les autres, il ne lui restera au final que très peu d'amis sincères. Et c'est un avertissement que Dieu nous donne. Vous savez, ce genre de personnage vous regarde de haut, il est égoïste, il est insensible, il ne se soucie guère des besoins de ses semblables. Il récolte d'ailleurs en général ce qu'il sème lui-même, c'est-à-dire la même attitude, l'insensibilité, le snobisme, l'égoïsme, et ainsi de suite. Tout le monde, en fait, voudrait avoir soi-même moins d'arrogance, honnêtement. Tout le monde en souffre, et tout le monde semble vouloir rendre la monnaie de la pièce à son prochain. On a vraiment l'impression de tourner en rond dans toute cette histoire. En fait, nous le savons bien, si nous sommes chrétiens, la vraie solution consiste à s'attacher, au contraire, à l'humilité, qui est le contraire de l'orgueil. La société moderne est encore loin de nous y encourager, puisque ce sont ceux qui sont sûrs d'eux-mêmes, nous dit-on, qui semblent réussir, tandis qu'on prend souvent les gens humbles, un petit peu effacés, pour des perdants. Et pourtant, dans la Bible, Dieu condamne sévèrement l'orgueil sous toutes ses formes. Il invite les nations à changer d'attitude, à revêtir l'humilité devant lui. Rappelez-vous, la ville de Ninive qui se rapprochait de sa destruction, il y a plus de 40 jours, faites quelque chose. Avec la prédication de Jonas, la ville entière, encore 40 jours, hein. Avec sa prédication, la ville a changé. Les autorités ont compris qu'il y avait quelque chose à faire et que ça allait barder pour eux. Ils ont jeûné, ils se sont humiliés devant Dieu, au point que Dieu a changé sa décision. Il a levé l'arrêt de mort qui allait frapper la ville, qui était apparemment inéluctable. Donc Dieu accorde une importance énorme à l'humilité, au changement de comportement. Hein, c'est possible de se repentir, nous devons nous repentir, que nous soyons chrétiens ou que nous soyons citoyens du monde. Et si Dieu désire que son peuple s'humilie lui-même à intervalles réguliers par le jeûne, c'est pour son bien. C'est pour son bien spirituel, afin de ne pas tomber dans le piège de l'arrogance, de la vanité, de l'orgueil qui nous guette tous. Soyons honnêtes. Dieu ne tolère pas l'arrogance. Il déteste l'orgueil. Et d'ailleurs, qui tolère l'arrogance ? Dans Proverbes chapitre 6, versets 16 à 17, nous lisons « Il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. » Et la première d'entre elles, sur cette liste, ce sont les yeux hautains. Les yeux hautains. Puis, après, Dieu n'en reste pas là. Il est dit « Il résiste aux orgueilleux », écrit l'apôtre Jacques dans... son épître, l'épître de l'apôtre Jacques, chapitre 4 et verset 6. Mais il est dit aussi, il fait grâce aux humbles. Donc Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et c'est le même système de rétribution par contrat que nous retrouvons dans toute la Bible, et notamment dans la loi. Du début jusqu'à la fin, Dieu récompense l'obéissance et punit la désobéissance. C'est une double efficacité, parce que avec l'obéissance, eh bien, nous évitons le salaire amer de la désobéissance. C'est un contrat, c'est une alliance, et cette alliance est toujours en vigueur. Pour plaire à Dieu, nous devons devenir humbles. Dieu est humble. Jésus-Christ est humble. Et nous devons en venir à lui ressembler. Et à marcher comme il a marché. Dans le prophète Michée, au chapitre 6 et au verset 8, c'est l'un des prophètes, des 12 prophètes mineurs, à la fin de l'Ancien Testament, prophète Michée, chapitre 6 et verset 8, nous avons un concentré merveilleux, formidable, de notre feuille de route, où il est écrit « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. et ce que l'Éternel demande de toi. Feuille de route. Un plan, une mission. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Justice, miséricorde, humilité. Il n'y a pas plus simple. Nous devons avoir ces trois vertus constamment à l'esprit chaque jour et dans nos prières. Et dans le prophète Ésaïe, chapitre 66, verset 2, Dieu déclare ceci, « Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. » Dieu n'a que faire de l'individu arrogant, qui se suffit à lui-même, l'individu suffisant. Mais il s'occupe des besoins de celui qui a l'esprit abattu, qui respecte la parole de Dieu, qui attend le secours de Dieu. C'est sur cette personne que Dieu porte ses regards. Voilà le Dieu d'Israël. Voilà le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui porte ses regards sur toute l'humanité, de tout temps, et qui veut ses enfants réunis sous ses ailes. C'est son désir. Il est bon, il est compatissant, il étendra son bras compatissant, d'ailleurs, jusqu'aux confins du monde, comme je le disais, afin de venir recueillir ses enfants, tous ses enfants, sans exception. Sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole, je porterai mes regards, dit l'Éternel. Notez bien que Dieu n'abandonne pas pour autant l'orgueilleux à son destin. Mais il l'humilie, parce qu'il l'aime quand même. Alors d'accord, mon enfant, tu ne veux pas t'humilier, je vais t'humilier. Et Dieu renverse sa maison. Il est écrit, l'Éternel renverse la maison des orgueilleux. Voilà la rétribution, toujours, toujours dans l'espoir de le voir se repentir. Mais, nous est-il dit, il affermit les bornes de la veuve. Dieu affermit les bornes de la veuve, tel qu'il est écrit dans Proverbe chapitre 15 et le verset 25. Proverbe 15, 25. Donc les biens des personnes hautaines seront détruits, alors que Dieu veillera sur les humbles comme sur les veuves, et il les protégera. Dieu porte une attention toute particulière à ces trois catégories de personnes, les veuves, les orphelins et les étrangers. Les étrangers qui craignent sa parole. Je ne parle pas des étrangers qui veulent, qui ignorent Dieu. Donc Dieu fait très attention à ces trois catégories de personnes qui ont des besoins vraiment criants. Comprenons bien l'intention de la loi. Personne n'aime voir, je le disais, l'arrogance d'un individu empiéter sur la vie des autres, sur sa vie déjà, et puis sur la vie des autres non plus. Le problème, c'est que, en tant qu'être humain, nous avons du mal à constater que ce défaut existe en nous aussi. Nous sommes malheureusement aussi, nous aussi, personnellement, sous son emprise, sous l'emprise de notre nature humaine. Et Paul le dit, « Misérable que je suis, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc Paul, apôtre, luttait contre le péché. Et nous luttons contre les péchés. Mais c'est par Christ que nous serons délivrés de la mort, car nous sommes tous orgueilleux, même les plus humbles parmi nous. Alors la Bible nous révèle dans Ézéchiel chapitre 28, verset 14, que lorsque l'univers invisible des serviteurs de Dieu a été créé, il était idéal. Une paix parfaite y régnait, le genre de paix universelle que nous appelons de nos vœux chaque jour, en fait. Il n'y avait pas de lutte de pouvoir, il n'y avait pas de mal, tout était clair, tout était limpide, il n'y avait pas de confusion, ni de désordre, ni de violence, il n'y avait pas de destruction d'aucune sorte. Le mal n'existait pas. Et Dieu et son peuple spirituel travaillaient en parfaite harmonie, prospéraient merveilleusement dans les différents projets de Dieu, dans l'intégrité. Et puis un jour, oui, la Bible dit un jour, un ange de la montagne de Dieu, portant plusieurs noms. L'un de ces noms, c'est astre brillant, d'après la Bible, Elel en hébreu, un mot qui vient de la racine hébraïque Alal, qui signifie celui qui brille, ou d'ailleurs curieusement, celui qui se vante. C'est intéressant. Il se mit à se prendre pour quelqu'un d'important. Non pas qu'il n'était pas important, puisqu'il était, il avait un rôle protecteur sur la sainte montagne de Dieu, nous est-il dit dans Ézéchiel chapitre 28, verset 12. La Bible nous dit au verset 16, « Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. » Alors, voilà le départ du péché dans l'univers. C'est le premier péché qui a jamais existé. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Par la grandeur de ton commerce, tu as péché. Alors, ça veut dire que maintenant, le propriétaire, être le propriétaire d'une grande entreprise commerciale, ce serait un péché. Non, pas du tout. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester un petit commerçant. C'est pas ce que ce verset veut dire. Le mot commerce, possède dans le dictionnaire Littré une demi-douzaine de sens différents. Et parmi eux, on notera tout spécialement les sens de causerie, d'échange, de trafic ou même de comportement. Alors, qu'a-t-il fait celui qui s'appelait l'étoile du matin, en latin Lucifer? Il a commencé à discuter, il a commencé à argumenter, non pas des petites choses ou des sujets qu'il maîtrisait. Il a discuté au sujet de choses qu'il ne maîtrisait pas, au sujet de choses plus grandes que lui, au sujet de choses beaucoup plus grandes que son domaine de compréhension ou d'intervention. Dieu lui dit, par la grandeur de ton commerce, de ton trafic, il a commencé à discuter sur la valeur des principes divins, des principes de Dieu. Il a pris de la hauteur dans son comportement, il est devenu hautain. Il a commencé à remettre en cause jusqu'à la loi de Dieu, jusqu'à la loi de Dieu. Le roi David, bien au contraire, écrit dans le psaume 131, verset 1, reportons-nous-y, psaume 131, verset 1, c'est un tout petit psaume, mais qui dit énormément sur l'attitude d'humilité de David. Il écrit « Éternel, je n'ai ni un cœur hautain qui s'enfle, ni des regards hautains, je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi. » Voilà l'attitude de David. Mais Lucifer, celui qui, à cause de tout ce trafic, est devenu Satan, l'adversaire, l'ennemi de Dieu, l'ennemi de l'humanité, celui qui se vantait et qui se vante encore de savoir mieux que Dieu, cet ange s'est persuadé lui-même de la valeur de son propre système de loi et de gouvernement, et dans son trafic, il a réussi à amener à lui un tiers de la population angélique à le suivre, et qui sont devenus les démons. Ils ont fomenté une tentative de coup d'État contre le trône divin, une rébellion. Nous le lisons dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, verset 7, et ainsi que dans Ézéchiel, chapitre 14, verset 12. Et nous voyons les conditions dans lesquelles cette tentative, d'ailleurs, a misérablement échoué. Et on peut se demander, mais comment Satan a-t-il pu se persuader qu'il pouvait réussir? Comment a-t-il pu penser un seul instant qu'il serait mieux que le Créateur Tout-Puissant? Ézéchiel chapitre 28, verset 17, nous dit « Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. » C'est un verset très important, parce qu'il nous dit que ce qui n'a pas tant d'importance, tout d'un coup peut avoir de l'importance, et que nous serions à ce moment-là dans la confusion, comme Satan est dans la confusion. La beauté, l'éclat, la splendeur, la gloire sont des attributs qui appartiennent à Dieu. Mais Dieu est humble, il reste humble. Et quand un enfant de Dieu en bénéficie, de cette gloire, de cette richesse, de cette beauté, ce serait une folie de sa part que de s'appuyer sur ses attributs d'apparence extérieure pour justifier une quelconque supériorité d'intelligence ou de sagesse. Cela n'a rien à voir. Et en contemplant le destin terrible de Satan et des démons, nous comprenons pourquoi Dieu voit l'orgueil pour ce qu'il est réellement, un terrible instigateur de méchanceté. Satan règne encore sur la terre maintenant, pour un peu de temps, nous le savons. D'après les prophéties, nous sommes les spectateurs, d'ailleurs, nous sommes les spectateurs effarés des résultats de son attitude, de sa domination. Le monde, sans l'intervention de Dieu, court à sa perte. Heureusement, Dieu va intervenir et empêcher sa destruction totale, comme Christ le prophétise dans Matthieu chapitre 24. Il importe de bien comprendre les projets et le plan de Dieu pour l'humanité, dont l'existence de l'humanité, s'étendra bien au-delà de cette vie physique temporaire. Que fait Dieu ? Dieu se constitue une famille éternelle, qui portera le même nom que lui, une famille divine avec Dieu Tout-Puissant, notre Père éternel, et Jésus-Christ, notre frère aîné. Et le modèle de la famille humaine nous aide déjà à comprendre pourquoi le danger pour les enfants, eh bien, c'est pour eux de se persuader qu'ils savent mieux que leurs parents. Rappelez-vous, le temps de votre adolescence, c'était peut-être le cas, certains parmi nous voulaient faire ce qu'ils voulaient. Dieu nous aime tendrement, mais il déteste l'orgueil. Du milieu de sa gloire, il reste humble, il est bon, il est aimant, il est miséricordieux, et il nous enseigne cette humilité, cette miséricorde, pour que nous apprenions à vivre ensemble dans sa famille, pour l'éternité, avec des projets passionnants, des projets puissants, merveilleux, dans la joie, dans la paix, avec une prospérité sans fin. Tous ces pouvoirs, toute cette puissance, Dieu ne saurait les confier à n'importe qui. Au contraire, il ne les confiera qu'à ceux en qui il a confiance. Il ne les confiera qu'à ceux qu'il aura choisis, dont il sait qu'ils s'en serviront sagement. S'il confiait ses pouvoirs à quelqu'un d'aussi arrogant que Satan, le risque de méchanceté, de destruction, serait inimaginable. Comme les mauvaises herbes, l'orgueil produit la corruption et la destruction. Mais Dieu nous donne du temps. Il nous donne du temps pour nous en préserver, pour apprendre l'humilité dans nos vies physiques. Le Créateur des univers visibles et invisibles n'est pas orgueilleux, il est humble, et il ne permettra pas que ses enfants deviennent orgueilleux ou restent orgueilleux. Il nous faut changer. Aucun membre de la famille divine ne peut entrer dans le royaume sans avoir d'abord rejeté et vaincu l'orgueil qui a tendance à s'attacher à nous, à nos vies. Dieu, nous le savons, est supérieur aux hommes à tout point de vue et en dépit de notre fragilité, de notre insignifiance, il nous aime, il prend soin de nous, il s'occupe de nous et tout cela dans un but merveilleux, comme nous venons de le voir. Il est disposé, c'est son plan, à partager avec nous sa nature divine et tout ce qu'il possède. Oui, tout ce qu'il possède. Lors de son passage sur terre, Jésus-Christ, le Messie, le Fils de Dieu, a révélé aux hommes les pensées du Père. Dans Jean chapitre 5, verset 19, il dit ceci. Jean chapitre 5, verset 19. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait, pareillement. Car le Père aime le Fils, verset 20, et lui montre tout ce qu'il fait, et lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. L'exemple d'humilité que Jésus nous a laissé est le meilleur qui puisse nous être donné. Il était disposé à devenir un être mortel comme nous, lui qui était Dieu, avec Dieu, de toute éternité. Il était disposé à souffrir et à mourir en sacrifice pour toute l'humanité, pour toute sa création, en acceptant cet acte suprême d'amour et d'humilité. Encore une fois, qu'est-ce que l'orgueil ? L'orgueil est une opinion surévaluée de soi-même, on s'estime bien au-delà de ce que l'on est en réalité. L'orgueil naît quand notre optique des choses devient si confuse, si tordue, que nous acceptons de nous mentir à nous-mêmes et tout naturellement, nous finissons par croire que nous sommes vraiment meilleurs que les autres. Et c'est un désastre. L'orgueil est opposé, l'opposé de l'amour divin. À cause de la confusion et de la violence qu'il provoque, il détruit les relations interpersonnelles. L'orgueil nous fait oublier que, comparé à Dieu, comme il le dit lui-même, les nations sont comme les gouttes d'un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Voilà les nations comparées à la puissance de Dieu. Et sans doute, ce qu'il y a de plus terrible dans l'orgueil, c'est qu'il nous donne l'illusion que nous n'aurions pas besoin de Dieu. Quelle terrible erreur! Dieu est précisément en train de nous montrer en ce moment, et à travers toute l'histoire de l'humanité, que sans lui, nous allons finir par nous détruire, toute l'humanité. Nous en avons de nos jours le pouvoir. Quand vous regardez le stock des armes nucléaires, on pourrait détruire plusieurs planètes. Quand l'homme se donne de l'importance, il finit par se débarrasser de Dieu complètement. Et dans Romains chapitre 1, verset 21, cet avertissement nous est donné, où Paul leur écrit ceci aux Romains. Il écrit « Ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. » En fait, s'imaginer que l'on n'aurait pas besoin de Dieu serait l'une des pires erreurs que nous puissions commettre. Satan, l'être arrogant qui est à l'origine de tout le mal que l'on voit dans le monde, est toujours maintenant le prince de ce monde. Comme il nous est dit dans Jean chapitre 14, verset 30. Jean 14, 30. Son objectif est de détruire définitivement tous les êtres humains, sans exception. Le seul moyen pour nous de l'en empêcher dans nos vies, c'est le suivant. L'apôtre Jacques nous le dit, il écrit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Voilà la feuille de route pour tout être humain, et pour nous en particulier, chrétiens, bien entendu. Dans les derniers jours du temps de la fin, juste avant le retour de Christ, l'humanité s'apprêtera à s'autodétruire totalement à cause de son orgueil. Dans sa seconde lettre à Timothée, l'apôtre Paul dresse une liste des traits majeurs que les hommes et les femmes auront au temps de la fin. Et cette liste n'est guère réjouissante. On y trouve notamment des qualificatifs tels que traître, emporté, enflé d'orgueil. Ces traits qui se fondent déjà assez bien avec le spectacle du monde de nos jours, le spectacle que nous traversons en ce moment, ces traits pousseront finalement l'humanité à défier Dieu ouvertement. Ces choses sont écrites. Elles sont prophétisées. L'homme, l'humanité, malheureusement, va tendre le poing vers le ciel. Oui, Dieu va envoyer des fléaux, des calamités dans un ordre progressif, mais toujours dans l'espoir de voir les hommes revenir au bon sens et commencer à faire des changements nécessaires. Et l'arrogance, nous est-il dit, atteindra un tel niveau que l'humanité refusera de se tourner vers Dieu et de l'écouter et de changer de cœur. Bien au contraire, ils s'irriteront et ils le blasphémeront au lieu de se plier humblement à sa volonté. Nous autres êtres humains, nous avons tendance à nous servir en premier. Nous sommes donc par nature en guerre contre l'humilité. Et tant que nous serons dans cette enveloppe charnelle, il y aura toujours en nous une mesure plus ou moins grande d'arrogance. Soyons honnêtes. Souhaitons que cette mesure s'amoindrisse, devienne symbolique, petite, par notre lutte à la recherche de plus d'humilité. L'auteur Patrick Williams, dans son livre « Humilité, l'ingrédient secret du succès », a fini par se dire que ceux qui ont véritablement réussi dans la vie, ceux qui sont véritablement grands dans l'histoire, étaient aussi des personnes très humbles. Quiconque aspire à être grand doit d'abord reconnaître l'existence de cette lutte interne, constante, et puis choisir délibérément l'humilité. Patrick Williams écrit ceci dans son livre, à la page 40. L'humilité est un choix, tout comme l'est l'ignorance. La bête sauvage de l'arrogance se tapit toujours en nous et ne peut être tempérée que par une force plus puissante, plus spirituelle, la force de caractère qu'est l'humilité. La force de caractère qu'est l'humilité. Nous devons constamment opter pour une attitude d'humilité, sinon nous opterons instinctivement pour l'arrogance. Donc on voit cette tendance naturelle qui est toujours là, à cause de notre enveloppe charnelle, à cause de ce que nous sommes en fait en réalité, de petits êtres. Donc allons vers la sagesse de Dieu, vers l'humilité, rejetons l'arrogance, l'orgueil, la vanité. L'apôtre Pierre le dit lui-même dans sa première épître, chapitre 5, verset 5, 1 Pierre 5, 5. Il dit ceci, il dit simplement, revêtez-vous d'humilité. Prenez le costume de l'humilité et gardez cela en vous, au fond de votre cœur. Comment faire? Alors, premièrement, nous avons évoqué le jeûne régulier déjà. Par exemple, alors au niveau de la fréquence, vous pouvez choisir celle que vous voulez, mais une fois par mois, c'est un très bon rythme. Cela nous permet de nous rapprocher de Dieu à intervalles réguliers pour rechercher sa volonté, pour lui présenter une requête, mais aussi pour s'approcher de lui, pour être humble comme il est humble, pour marcher comme il a marché. Je parlais de Christ. Donc être près de la famille de Dieu, de la sagesse de Dieu. Deuxièmement, gardons toujours présent à l'esprit l'exemple parfait de Christ, précisément, quand Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Il s'est ceint d'un linge, il s'est surtout revêtu d'humilité en prenant activement le rôle du plus humble des serviteurs de la maison, qui traditionnellement, à cette époque en Judée, lavait les pieds des visiteurs. Lui, qui était le maître, qui est le maître, a lavé le pied, et même le grand maître, a lavé le pied de ses disciples, de ses élèves. Plus généralement, dans la vie courante, c'est en décidant de faire ce dont les gens ont besoin, de les aider, en choisissant de les servir, que nous faisons la même chose. Nous pouvons le faire de façon symbolique, mais nous devons le faire aussi de façon pratique, en donnant notre temps, notre énergie, pour servir ceux qui sont dans le besoin. Et les disciples, ce jour-là, pensaient, eux, à leur avenir. Qui sera le plus grand dans le royaume de Dieu? Quand même, c'est fort de café. Ils se mettaient à discuter au sujet de celui qui serait le plus grand parmi eux, tous. Et Jésus-Christ a eu tôt fait de les ramener à un peu plus de sagesse. Et il leur dit que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit et celui qui gouverne comme celui qui sert. Dans Luc chapitre 22, verset 25. Luc 22, 25. Voilà notre objectif. Voilà notre compas, notre boussole, notre feuille de route, notre plan de navigation, notre plan GPS. Ainsi, si nous voulons réussir dans la vie, si nous voulons arriver à destination, nous devons, nous aussi, passer par l'humilité, passer par la porte étroite, opter constamment pour l'humilité. Encore une fois, la société qui nous entoure est conçue pour nous pousser dans le narcissisme. L'art qui consiste à nous regarder le nombril sur les médias sociaux, à faire des selfies, à dorloter à l'envi notre image de marque. Bon, on peut faire un petit peu attention à son image personnelle, je ne dis pas le contraire, mais il y a quand même des limites. Si ça prend tout notre temps, il y a quand même là, à ce moment-là, un problème. Bien sûr, il y a des métiers dans lesquels la présentation extérieure est capitale pour réussir. Ce n'est pas de cela dont je parle. Il est vrai que le fait que l'humilité serait importante pour réussir et qu'elle serait même une clé indispensable à tout succès paraît en soi absurde à première vue dans un monde où les gens, je le répète, jouent des coudes pour arriver au bien-être et s'y faire une place au soleil. Alors, comment réconcilier les deux visions? Examinons à nouveau l'exemple de Jésus-Christ. Nul ne prétendrait qu'il se considérait de peu d'importance. Nul ne prétendrait qu'il manquait d'humilité. Il avait conscience de son rôle. il avait conscience de sa responsabilité. Mais il se faisait, en vérité, un exemple de serviteur pour les autres. L'un des passages les plus touchants des Écritures est la lettre que Paul a adressée à l'église de Philippe. Paul y encourage les membres à adopter cette approche chrétienne, qui est une approche d'humilité. Et il écrit dans Philippiens chapitre 2, verset 3, reportons-nous-y, l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 2, verset 3. Philippiens, chapitre 2, verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ni par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Notons que Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Autrement dit, il ne pensait pas avoir peu d'importance, il savait qui était son Père dans les cieux, mais pourtant il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Alors, finalement, nous comprenons que revêtir l'humilité, cela ne se limite pas à l'idée que nous nous faisons de nous-mêmes. Il est plus question de notre façon de considérer nos semblables. Nous devrions, évidemment, faire attention à ne pas nous donner une importance exagérée, ce qui est la définition de la vanité, ce qui est vain, ce qui est vide, vide de sens, nous l'avons vu. Mais en revanche, nous ne devrions jamais nier les talents que Dieu nous a donnés, car ce serait tout aussi négatif. En résumé, la bonne approche consiste à évaluer honnêtement nos propres attitudes et à chercher à les utiliser au service des autres, au service d'autrui. C'est cela, la véritable humilité. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de sabbat et je vous dis à bientôt.